aux arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes, ce sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir, du goût.
Notre invité de ce soir s'appelle Laura Laufer. Elle n'est pas connue autrement que par une fréquentation assidue de la Cinémathèque et de toutes les salles où l'on projette des films qui l'intéressent. Elle a 30 ans et elle m'a paru exemplaire d'une belle trajectoire d'amour du cinéma, et c'est avec elle que nous parlerons de cet amour du cinéma et de la façon dont il l'a saisi dans son adolescence jusqu'à aujourd'hui.
Bien. Moi, je peux dire que je l'ai vue la première fois à Sylvia Scarlett, à l'Action Lafayette, et qu'elle essayait désespérément de faire taire des gens qui, eux, n'ayant pas vraiment conscience de ce que c'est que Katharine Hepburn dans ce qui fut Sylvia Scarlett, parlait pendant le film.
Bien, alors, comme vous le devinez, nous essayons de composer cette émission de numéro en numéro, c'est-à-dire de semaine en semaine, avec les cinéastes, puisque nous sommes le cinéma des cinéastes, avec ceux qui peuvent donner sur le cinéma un éclairage qui n'est pas celui de l'intérieur, mais enfin qui est un éclairage, disons, de création ou de, par exemple, philosophique ou poétique. Vous vous souvenez des émissions que nous avons faites avec un jeune philosophe, un jeune professeur de philosophie. Et la semaine prochaine, nous espérons avoir M. Paul Virilio, dont un interview paru dans Le Monde m'est apparu soudain très, très passionnant, traversant avec une très grande acuité de regard le champ du cinéma, et ce qui nous donne envie de, naturellement de lire, mais aussi de parler avec lui de cinématographe. Alors, pour ce qui est le cinéma et le ciné, et le cinématographe aussi, bien sûr, La Femme d'à côté, qui sort bientôt, va sans doute être au centre de nos... à la fois de notre vie et de nos réflexions, et nous espérons bien avoir avec Truffaut, une fois qu'il sera un peu débarrassé de toute la campagne de presse actuelle qui doit le fatiguer beaucoup, un entretien en longueur avec lui sur La Femme d'à côté. Alors, pour le programme du cinéma des cinéastes pour les semaines à venir, donc ce soir, une cinéphile, Laura Laufer, la semaine prochaine, Paul Virilio, selon toute vraisemblance, et la semaine suivante, selon toute vraisemblance aussi, François Truffaut, à moins que des idées soudaines jaillissent et que des films soudains nous apparaissent, et que des personnages soudains nous apparaissent, et que nous soyons en possibilité de changer, puisque, après tout, c'est notre habitude de nous laisser aller à ce qui arrive et à ce qui se passe. Alors, il se trouve que ce qui se passe actuellement pour nous, c'est pour moi, parce qu'il s'agit de quelque chose qui fait partie de mon passé, encore que passé récent, c'est le Roger Lénard, dont on revoit soudain les films au Ciné-Club d'Antenne 2, les deux grands films.
Et moi aussi, sans concertation.
Oui, c'est ça. Bon, alors, Caroline Champetier, soudain... m'interpelle, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, et il semblerait, Caroline Champetier, que vous ayez été complètement bouleversée par les dernières vacances.
Oui, j'ai été fascinée par un équilibre du film que je trouve très étrange. Par exemple, on disait tout à l'heure que le dialogue peut nous apparaître parfois un petit peu désuet, que la mise en scène n'a rien d'un brio extraordinaire. Et puis, pourtant, entre le jeu des acteurs, le dialogue... l'histoire très très ancrée dans une France protestante, Sévenol, etc. Tout ça fabrique un film d'un équilibre, moi je trouve, absolument prodigieux. Alors je me trompe pas, puisque derrière moi il y a des générations de cinéphiles qui ont salué ce film. Mais moi je le voyais pour la première fois, encore une fois, je nais au cinéma tous les jours. Et le Calénart, bon, après, combien d'années...
Il nous entend probablement, parce qu'il se trouve que Roger Lénard, parfois, écoute le cinéma des cinéastes, et que ça l'intéresse de l'endroit où il s'est retiré dans le Midi, puisque je crois qu'il vit actuellement à la campagne, dans le Midi, enfin en grande partie, puisqu'il vit vient quand même à Paris de temps en temps, il ne pouvait pas s'en passer. On dit Roger Lénard et pas Roger Lénard.
Hein, ah, Roger Lénard.
Oui, il l'a fait remarquer.
Et le cas Lénard, Roger Lénard est toujours un cas. C'est-à-dire que là, visiblement, j'ai fait une rencontre et sans violence. C'est ça aussi, par exemple, on pense, c'est du cinéma français. On peut très bien penser à Renoir. C'est un thème, comme dit Bazin dans son article, le style, c'est l'homme, c'est ça,
dans la revue. Oui. Oui, dans la revue du cinéma de juin 1948. Oui.
On peut penser à Renoir, évidemment. C'est des choses...
On y pense même directement. L'autre soir, en le revoyant pour la énième fois, les dernières vacances, et en le revoyant à l'antenne, disons, les deux couples parallèles, l'un sur un bateau et l'autre sur la rive, c'est évidemment...
Et puis le groupe humain, cerclé dans un espace relativement clos, tout à fait cinématographique, on pourrait dire aussi, tout à fait théâtral, celui de la famille, de la maison familiale, etc. Et... en même temps, il n'y a pas la violence de Renoir. Il y a une violence absente. Et c'est ça qui m'a, je dirais, complètement enlevé. C'est que c'est une rencontre sans violence, qui vient d'évidence, avec des personnages qui vivent des drames, parce que cette sortie d'enfance de ces deux jeunes adolescents, dont cette sortie d'enfance très lucide et très consciente pour la jeune fille, plus douloureuse et moins lucide pour le jeune homme, eh bien, elle est dramatique, mais elle se fait sans violence. Cette maison de famille dont ils vont être obligés de se séparer, ce qui est un drame, moi je trouve un drame familial, eh bien, ça se passe sans violence aussi. Et c'est pas non plus de la comédie. Pierre Dux, qui trace un personnage étonnant de Marie, qui voudrait être infidèle, mais qui finalement ne l'est pas. Il y a quelque chose de dramatique dans l'adultère, qui ne se produit d'ailleurs pas, je pense, mais sans violence également. Et ce qui me fascine, c'est en écho l'article de Bazin sur ce film, qui est d'une humanité encore, mais absolument étonnante. Tant d'humanité, j'ai l'impression que ça n'existe plus.
Oui, mais alors parce que je crois, enfin moi j'en ai parlé avec Roger Lénard souvent, puisqu'il se trouve que les dernières vacances réapparaissent. Bon, d'abord parce qu'elles sont réapparues souvent à la télévision, hein, depuis que la télévision existe. Elles n'étaient pas passées depuis 6 ans, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme. Et à chaque résurgence, c'est un autre film, à la grande surprise de Roger Lénard lui-même qui apparaît. Et alors, c'est d'autant plus fort, je crois, pour nous. Enfin, pour nous l'autre soir, que Lénard a 45 ans à peu près au moment où il fait son film, il n'a pas fait de film du tout. Donc il y a toute une énergie de jeune homme qui ne s'est pas exprimée dans la fiction. Il y a en même temps cette faculté qu'ont les hommes de cet âge de parler au-delà d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils font tous leur film le plus commercial, le plus populaire à cet âge-là. C'est à cette époque-là, à cet âge-là, que Lang fait M le maudit, que Renoir fait La grande illusion. Il y a une faculté à un certain âge, c'est-à-dire entre 45 et 50 ans, de s'adresser. C'est à cette époque-là que Hitchcock fait ses films les plus lisibles, les plus clairs, les plus populaires, d'une certaine façon. Et lui, il a 45 ans alors qu'il n'a pas de filmographie derrière lui. Alors, ça donne... Alors, il n'a pas de filmographie derrière lui, mais il a une vie. Il a une vie...
Une veine très, très installée.
Oui, oui. Mais attention, mais il situe délibérément, parce qu'il connaît les lois de la littérature, en fait, les lois du roman et celles de la fiction, il situe ça en 32. C'est ça qui fait cette douceur. C'est que le temps a passé entre 32 et 48, pour lui. C'est-à-dire qu'il pense au jeune homme de 1932 qui débarquait à Paris, qui était le jeune Lénard, qui débarquait à Paris dans une crise épouvantable. Il était bardé de diplômes. Il avait tous les diplômes que vous pouvez imaginer. Il était au chômage. Je crois qu'un de ses métiers, ça a été d'être assistant monteur dans les premiers studios où on faisait du son.
Et sa trajectoire biographique, d'après l'article de Bazin, ressemble étrangement à l'absence de violence de ce film. C'est-à-dire qu'il a contourné le cinéma en faisant une peau d'orange autour, quoi, en tournant autour lentement pendant des années. Et ça arrive à ce film qui n'est pas un choc. Et ça, c'est très étonnant. Et c'est quelque chose dont Godard parle souvent, ça. Essayer de ne pas forcer les choses, de ne pas être trop violent. Godard l'a été, ça, tout le monde le sait. Et petit à petit, cette violence-là, il commence à essayer de l'oublier.
Bien alors, Laura Loffert, puisque c'est de vous qu'il s'agit aujourd'hui pour la durée de notre émission. Alors, dites tout simplement comment je vous ai rencontré. C'est à la Cinémathèque, en allant voir un film de Hawks. Vous étiez adressé à la salle c'était la salle de Beaubourg, avec la crainte que vous aviez que la salle de Beaubourg n'appartienne plus à la Cinémathèque et qu'elle passe à autre chose. et la peur que la cinémathèque s'installe aux Ursulines, qui est une salle moins bien installée. Et puis je vous ai rencontré dans la rue, puis on a parlé, et puis vous m'avez paru suffisamment intéressant dans ce que vous disiez pour que j'ai eu envie de vous faire raconter votre vie. puisque après tout, raconter son histoire avec le cinéma, c'est un peu raconter sa vie, on l'a bien vu ici souvent, depuis que vous vous intéressez au cinéma. Alors déjà, votre prénom. Alors Laura, c'est pas un hasard, d'après ce que vous m'avez dit.
Ben, c'est-à-dire que le dernier film que ma mère a vu avant ma naissance, je crois que c'était en 49, puisque je suis née en début d'année 50, c'était Laura de Preminger. Et puis, elle avait le désir donc, de m'appeler comme ça, puis ça n'a pas pu se faire parce que la grand-mère paternelle n'était pas tellement d'accord. Et puis, en fait, on m'a appelée Jeannine. Et puis, quand j'ai appris cette histoire, j'ai décidé de demander de m'appeler Laura. Et à 12, 13 ans, c'était à peu près la mort de mon père. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Enfin, c'est pas parti tout à fait comme ça. Je voudrais revenir sur la cinémathèque deux secondes, puisque vous m'avez vu un petit peu à Moëvi au moment où je prenais la parole. Il y a un petit peu d'inquiétude de la part des usagers de la cinémathèque, parce que on a entendu dire que la salle de Beaubourg donc, serait fermée et serait transférée aux Ursulines. On ne comprend pas très bien pourquoi, puisque c'est une salle qui est très bien équipée pour la projection. On peut y passer du 70 mm. Elle a une capacité d'accueil qui est bien supérieure à celle des Ursulines, qui fait 137 places, je crois, alors que la cinémathèque de Beaubourg en fait presque 200. Et il est question également de remettre les abonnements en cause. Du moins, on en a un petit peu peur. Alors, on souhaite quand même que, surtout pour les gens qui vont souvent à la cinémathèque, ça soit maintenu. Le nouveau directeur qui a été nommé à la cinémathèque, on espère pouvoir le rencontrer parce qu'on aimerait qu'il y ait une collaboration beaucoup plus proche entre ceux qui fréquentent la cinémathèque, ceux qui la font, et puis qu'on pose vraiment le problème de peut-être la réintégration de la cinémathèque à la FIAF, à la Fédération internationale des archives du film, qui me semble quand même essentiel. Également que la cinémathèque est une vocation réelle de service public, de musée du cinéma pour la connaissance du cinéma, qu'il y ait une publicité qui soit beaucoup mieux faite, parce que sur les murs de Paris, quand il y a une exposition Modigliani ou un concert, on voit les affiches du métro couvertes d'invitations à y aller. Et pour la cinémathèque, il n'y a pratiquement rien, il n'y a pas d'affiche murale, etc. En plus, c'est vrai que les Parisiens sont privilégiés. Dans le cadre du nouveau gouvernement qui est en place, il serait souhaitable que la cinémathèque fasse son expérience, serait décentralisée, qu'elle devienne réellement une cinémathèque, un musée du cinéma national, qui pourrait faire circuler ses copies, de façon à ce que la province en bénéficie aussi.
Bien, voilà. Alors, très bien, je vous ai laissé parler tout à l'heure, vous exprimer.
Deux choses sur le film de Reynard.
Oui, non, mais on va... oui, mais alors, c'est par ça qu'il faudrait commencer, d'ailleurs. Oui, parce que, oui. Alors, allez-y. Roger Lénard.
Le film, je le trouve extrêmement moderne. Quand on dit qu'il n'est pas violent, c'est vrai que c'est un film sur une famille. Je crois que le fait qu'il l'ait situé beaucoup plus tôt dans le temps que par rapport à l'époque où il a été tourné, effectivement atténue un petit peu la violence. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait des moments extrêmement dramatiquement vécus. Enfin, l'implication des personnages est très profonde. Et par exemple, la scène du baiser à la fin, moi, je la trouve extrêmement violente. Cette espèce de désir qui est constamment monté dans le film et puis quand on dit le verso est renversé sur la paille, et là je trouve ça extrêmement, extrêmement violent. Et en plus, c'est vraiment bon, effectivement. En plus, ce qui est étonnant, c'est que pour une personne de son âge, il y a un discours très, très, très moderne sur la sexualité, sur l'adolescence.
Et puis, le discours de Lénard.
Oui, le discours de Lénard. Et puis, alors, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a vraiment. C'est un film extrêmement poétique dans la façon dont il traverse l'espace, les plantes, des paysages, du foin, etc. C'est un film que j'aime beaucoup.
On a vu apparaître là trois aspects de vous, Laura Lofer. D'une part, l'aspect Laura Preminger, la cinéphilie américaine des années 49-50, à laquelle je crois que vous êtes fidèle, dont on reparlera. Il y a, à travers ce que vous avez dit de la cinémathèque, et il me semble que vous avez raison, je vais séparer parce qu'en fait, vous parlez au nom des usagers de la cinémathèque, vous dites des choses qui me paraissent tout à fait naturelles. Mais vous le dites sur un ton de quelqu'un qui a l'habitude de prendre la parole dans des habitudes de militante ou de militant politique, ça c'est certain. Et en plus, alors là, quand je vous entends parler de cinéma, aussitôt apparaissent alors les instruments de vocabulaire critique dont on sent que c'est l'équilibre entre le premier et le deuxième aspect. C'est-à-dire que votre vie, je le sais pour vous avoir vu à la cinémathèque, est celle d'une cinéphile, c'est-à-dire dans le noir, devant un écran, racontant ailleurs, racontant la fiction, racontant le légendaire de ce siècle d'une certaine façon, et des autres. Et d'autre part, je sais que vous avez une vie qui est une vie de... Puisque vous écrivez dans Rouge, puisque vous êtes militante féministe, vous avez été militante féministe, qui est au contraire, alors, tout à fait dans la ville, enfin dans la cité, comme on dit. Alors, je voudrais savoir ce qui se passe en vous, entre les deux, entre quelqu'un qui s'appelle Laura en fonction de Jeanne Ternet et quelqu'un qui écrit dans Rouge.
De toute façon, pour Rouge, c'est une collaboration uniquement militante. Je suis absolument pas critique et de cinéma, et j'avoue que ça m'intéresse pas vraiment. Enfin, comme j'ai des connaissances, j'ai préféré les mettre au service de mes camarades. Je sais pas si j'y arrive d'une manière simple et lisible. Les préoccupations militantes, ça c'est une vieille conviction, parce que j'ai travaillé longtemps et que le seul moyen, je crois, de faire changer les choses quand on travaille, c'est d'être militant syndical, ce que j'ai été longtemps quand je travaillais à Prise Unique, puisque j'ai travaillé 7 ans dans les grands magasins, enfin dans les magasins populaires. À un moment donné, je travaillais au magasin Réuni rue de Rennes, c'était en fin 71, et puis en 72, je suis rentrée au Prise Unique des Champs-Élysées. Et c'est là que j'ai commencé à m'investir syndicalement, surtout, et politiquement ensuite. Parce que je pense qu'on ne peut pas travailler dans des entreprises aussi où le travail est aussi aliénant sans lutter pour améliorer ses conditions de vie, qui sont très dures pour les travailleuses du commerce ou les travailleurs du commerce, où on est sous-payé, où on fait un travail qui est presque un travail à la chaîne, parce que les débits de caisse sont très rapides. On n'a pas le temps de passer, on est complètement abruti par la publicité, les néons. En plus, il y a énormément de maladies professionnelles dues à la station debout quand on est vendeuse. Moi, j'ai fait une paralysie des jambes uniquement due à des bouches de chauffage à air chaud qu'on nous insufflait sans arrêt sur les jambes et le sang ne circulait plus. Bon, alors ça, c'est, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen que...
Vous alliez au cinéma, c'est pour
ça ? J'allais au cinéma le soir en sortant du boulot. Oui, j'allais au cinéma. J'allais déjà au cinéma avant, bien avant. Et puis, j'ai continué à y aller, tout en travaillant, tout en étant militante syndicale.
Si quelqu'un vous entend, vient d'entendre ce que vous dites, Laura Lofer, c'est-à-dire la description de votre travail dans ces grands magasins. La logique voudrait que vous vous intéressiez au travail, tout à fait d'ailleurs estimable, puisqu'on vous a fait venir ici et on continue à s'y intéresser, de ceux qui font un cinéma dit militant. On pense que aussitôt que vos paroles, disons tout à fait fondées syndicalement, politiquement, vont se traduire cinématographiquement par une envie de cinéma militant. Or,
c'est-à-dire que le cinéma militant, je suis pour soutenir tout ce qui est cinéma qui parle de la réalité, des problèmes de la vie sociale. Tout ce qui est à caractère progressiste, je suis pour l'encourager et le soutenir du point de vue des moyens. Du point de vue de la forme, je crois qu'on ne peut pas forcément faire un parallèle avec le cinéma qui reste pour moi quand même quelque chose à l'aspect ludique, avec l'évasion, l'imaginaire qui travaille. Ce qui ne veut pas dire que quand on interprète le monde comme le fait l'artiste, on ne soit pas traversé des contradictions sociales qu'on subit. Donc ça se reflétera dans l'œuvre. Maintenant, je pense que le cinéma militant a une efficacité, il est utile et indispensable, de même que les tracts le sont. Mais pour moi, c'est un souci d'efficacité politique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de très grands films politiques. Au moment de la révolution russe, on a vu en Union soviétique tout un cinéma surgir qui s'est mis au service des grands idéaux de la révolution russe, de la révolution soviétique. Et Potemkin reste pour moi un des très grands films du cinéma mondial. Mais ce n'est pas le film militant.
Il ne s'inscrit plus, je suppose, pour vous, dans le cinéma. Parce que... Je voudrais vous faire raconter votre vie de cinéphile, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est quand vous avez rencontré, vous m'avez décrit votre évolution qui allait du cinéma du type Antonioni du début des années 60 à Murnau et Dreyer aujourd'hui. Ouais. Alors, moi, j'aimerais que vous développiez ça. Alors, je voudrais savoir comment, quels ont été les films qui vous ont touché autant, disons, de votre 18e année, ou même plus tôt, si vous voulez aller plus loin.
Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à aller au cinéma de façon beaucoup plus systématique et régulière, c'était l'époque où on voyait sur les écrans, où les distributeurs nous proposaient sur les écrans parisiens, Lauzet, Antonioni, Pasolini, Globert Rocha, Bertolucci, qui étaient vraiment les cinéastes à la mode.
C'est les années 60, ça.
C'est les années 60. Bon, j'allais déjà au cinéma avant. Ma mère aimait beaucoup le cinéma et m'y emmenait quand j'étais petite fille. J'avais vu déjà, bon, j'ai un souvenir d'avoir vu notamment des films en version originale, Une femme disparaît, par exemple d'Hitchcock, qui m'avait beaucoup impressionnée quand j'étais môme, notamment dans la scène où il enlève les bandelettes de la femme dans le train, et j'en ai fait des cauchemars pendant longtemps. Également, j'avais vu très curieusement un film de Renoir qui m'avait beaucoup plu et dont j'avais gardé un souvenir en couleur, c'est Les temps tragiques.
Soit
Poitter avec Dana Andrews. Et c'est très curieux, c'est des films qui m'ont poursuivi longtemps. Et quand je m'occupais du ciné-club de mon lycée, j'avais tendance d'abord à présenter plutôt les films de Buñuel, Mazarin ou Wim Bergman comme Le Septième Sceau, Eisenstein qui va à Mexico, des choses comme ça. Et puis, curieusement, un jour, il y a eu une erreur d'envoi de films de la Fédération des ciné-clubs. On nous a envoyé Elena et les hommes à la place de je sais plus quoi. Et tout d'un coup, j'ai eu un choc. C'est-à-dire que je pensais le cinéma en termes un petit peu intellectuels, élitistes, etc. Tout d'un coup, alors ce qui est très curieux, c'est que Elena et les hommes avaient fait un tel choc, c'est que tout le monde avait descendu le film en flammes. Les professeurs s'étaient excusés en disant que c'était une erreur d'envoi de la Fédération française des ciné-clubs. Et moi, je m'étais dit, tiens, ça, c'est un film que je trouve merveilleux, mais j'arrivais pas encore à expliquer ni comment ni pourquoi. Maintenant, j'arrive beaucoup plus à comprendre pourquoi, parce que le Renoir, c'est le mouvement. Enfin, dans Elena, c'est le mouvement, c'est la couleur, c'est fabuleux. Et aujourd'hui, bon, je reviens beaucoup plus sur des cinéastes, les cinéastes des années 60. Bon, j'ai revu un petit peu Antonio Das Mortes l'autre jour à la télévision. Je supporte vraiment pas. C'est-à-dire que c'est
l'allégorie. Il était en VF. Hein.
Oui, je l'ai vu en version originale, et quand il était sorti, c'était un de mes films marottes. Et j'allais les voir fréquemment. Alors, c'est un film, effectivement, que je considérais comme progressiste à l'époque, qui est plein de symboles, qui est quand même réservé à une élite, parce que je ne crois pas que le travailleur brésilien ou le paysan brésilien, même si c'est un film allégorique sur la Révolution, je ne pense pas du tout qu'il soit compréhensible par tous. Et je crois que le cinéma nouveau a dégénéré pas mal. Il est arrivé à une impasse. Et,
Non, mais dans les années 60, vous dites, c'est drôle, vous dites Antonioni, Bergman. Alors, je revois très bien les
films. Antonioni, je peux expliquer pourquoi. C'est-à-dire que son cinéma me paraît lent. Ce qu'il y a, c'est que tous ces cinéastes-là ont pour beaucoup ce qui me semble une déformation. C'est-à-dire qu'ils ont quelques idées qui veulent absolument défendre tout au long de leur film, qu'ils étirent lourdement, et ils n'ont pas ni le sens de la synthèse, ni de l'efficacité. Donc, par exemple, chez Nicolas Ray, vous avez je ne sais pas combien d'idées dans une image seconde. Chez ces cinéastes-là, vous avez une idée qui parcourt tout le film et qui est tirée didactiquement ou lourdement.
Attention, non, ne généralisons pas.
Il y a des films de Pasolini ou de Bergman que j'aime beaucoup. J'aime bien les premiers Bergman, j'aime bien Monica, Jeux d'été. Il y a des Bergman que j'avais bien aimé, Sonate d'automne. Bon, maintenant, sinon, je trouve que souvent, c'est un cinéma qui est répétitif, qui est lent.
Tu n'utilises pas le mouvement ?
Je sais pas, chez Bergman, il y a quand même un sens du cinéma qui est réel. Chez Pasolini aussi. Bon, il y a des films de Pasolini que j'aime bien.
Mon interrogation, moi, c'est le cinéma américain. Je ne sais pas si Claude, c'est la même.
Non, mais attention, parce qu'on est toujours dans les années 60, là. Alors, effectivement, dès qu'on pense aux années 60, on voit surgir, c'est vrai, des séances de ciné-club où on voyait Nazarin, et Le Septième Sceau, d'ailleurs plutôt que Monica, d'une certaine façon, et on voit surgir les publicistes, puisque ce sont des salles de cinéma, hein, concrètement, c'est les publicistes qui passent les films d'Antonioni et La Grande Surprise, qui ont un succès bourgeois cultivé avec les films d'Antonioni. Mais n'oubliez pas aussi, les salles de Saint-Germain où on passe des carabiniers devant 10 spectateurs qui hurlent en disant « qu'est-ce que c'est que ça ?» N'oubliez pas le choc de Pierrot le Fou, n'oubliez pas le choc de... puisque vous l'avez revu récemment, du mépris dont on reparlera bien sûr dans cette émission, c'est aussi Godard, non? Alors, ouais. Vous avez l'air de l'extraire de...
Non, je n'extrais pas du tout Godard. Moi,
Et pas seulement Godard, Truffaut, Romère,
ouais,
etc.
Non, j'aime bien... J'aime beaucoup Godard. Enfin, j'ai revu Le Mépris, là, récemment. C'est vraiment prodigieux. C'est un film... c'est vraiment une tragédie. Enfin, le cinéma de Godard, c'est toujours le cinéma du désespoir. C'est toujours... Il y a une dimension tragique chez Godard qui est lyrique, qui est poétique. Il y a une force chez Godard qui est étonnante. Dans les films de cette période, parce qu'il y a les films de Godard que j'aime moins, notamment... tous les films de la période, entre guillemets, malveillante de Godard.
Non, mais on est encore dans les années 60.
Ouais, dans les années 60, si, ça, j'aime beaucoup tout ça.
Mais est-ce que vous les avez vus à l'époque?
J'avais vu des Truffaut, j'avais vu les Godard. Oui, je les ai vus à l'époque, j'aimais déjà beaucoup. Hein, j'aimais déjà beaucoup Godard.
Vous arriviez à aimer Godard et à aimer le reste? Ah, oui, ça veut dire que vous n'avez pas foncé tête baissée? Oui.
Non,
alors d'où vous venez cet éclectisme-là? Parce que je crois qu'il est exemplaire, je vois pas qui pouvait aimer...
Vous trouvez...
Ah mais oui, mais vous êtes plus âgé, Claude. Nous, quand on a moi, qui viens après, quand j'ai découvert Godard...
Vous êtes typique du début des années 70. En 60, on était encore...
On ne pouvait voir que Godard, les autres, on n'arrivait même pas à voir. Alors ça m'intéresse, parce qu'elle, elle est vraiment entre les deux.
Je voyais tout. C'est-à-dire, au départ, je ne m'étais absolument pas dornière. Je voyais absolument tout. Et je me laissais porter par ce que je voyais.
Non, mais surtout, il y a le fait que, parce que dont on n'a pas parlé, parce que c'est évident, mais en même temps, il faut en parler, c'est pourquoi le cinéma? C'est-à-dire, pourquoi le cinéma plutôt que la littérature? Et pourquoi cette attention? Dès le début, vous avez vu combien de films par semaine?
J'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup de films à une période où j'étais sans travail et un petit peu avec la complaisance d'Henri Langlois qui m'invitait royalement à rentrer à la Cinémathèque sans payer. Je ne veux pas renforcer le mythe Langlois parce que ça n'a pas tellement d'intérêt, mais c'est vrai que j'avais des facilités pour y rentrer. Et quand j'ai découvert la Cinémathèque, ça me permettait d'y aller de 14h à 2h du matin, à une période notamment un été où je me suis retrouvée sans travail et j'allais pratiquement au cinéma tous les jours. Voilà, ça a été un bon
avis. Mais est-ce que c'était à ce moment-là un désir de savoir ou est-ce que c'était un refus?
Je peux expliquer pourquoi j'ai été systématiquement au cinéma. Au départ, j'ai eu plutôt des goûts littéraires et de théâtre, et j'ai fait un peu de théâtre. Et je voulais écrire des pièces, j'en ai écrit une notamment, qui avait failli être montée, sauf que comme il y avait toujours 13 personnages sur scène, c'était pas tellement possible. Et je l'avais donnée à Jean-Marie Serrault et à Tania Balachova, dont j'étais élève. Et Tania m'avait dit de prendre des élèves dans le cours et de monter la pièce. Et ce qui se passait, c'est que je voyais beaucoup de pièces de théâtre à l'époque, et le cinéma, je connaissais beaucoup moins. Et puis, quand j'ai commencé à aller au cinéma beaucoup plus systématiquement, je me suis aperçue qu'il y avait des dimensions supplémentaires, parce que dans le théâtre, j'étais très concernée par les problèmes d'espace. Bon, j'avais lu Claudel, que j'aime énormément, non pas de la manière dont il écrit, mais... Sa vision de l'espace, il y a un éclatement de l'espace qui est pratiquement immontable chez Claudel. Bon, une pièce comme Le Soulier de Satin, je ne vois pas comment ça pourrait être monté. Ça se passe dans le ciel, en Chine, sur la mer, enfin c'est complètement fou. Et je ne voyais pas au théâtre comment on pouvait arriver à faire éclater l'espace. Et il y a eu des tentatives, quand j'avais vu Orlando Furioso ou le travail d'Ariane Mnouchkine, ça m'avait énormément intéressé parce qu'il n'y avait plus cette immobilité de la scène, qui fait que c'est un espace quand même assez clos et limité. Quand j'ai commencé à aller au cinéma, il y a eu pour moi une espèce de progression de bond en avant, parce que l'espace éclatait. C'est-à-dire que le cinéma peut nous présenter des simultanéités d'espace, ou même quand on voit un gros plan, on arrive très bien à imaginer l'espace au loin, la ville, etc., à extraire le personnage, alors même si on est complètement face à face à lui, qu'on regarde dans les yeux, au fond de l'âme, etc., il y a beaucoup plus de possibilités d'espace, et tout d'un coup, je voyais quelque chose qui était beaucoup plus grand au niveau de l'imaginaire que ce que le théâtre pouvait me présenter. Puis je m'ennuyais au théâtre, je trouvais que le théâtre piétinait beaucoup, à part ce que faisaient Planchon et puis Mnouchkine, je voyais pas tellement... je m'emmerdais, quoi, au théâtre.
Vous connaissez la phrase de Renoir, le vrai sujet du cinéma, c'est le théâtre?
toute façon, je
pense. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est.
Non, je connaissais le Carrosse d'or.
Ah, oui, vous l'avez découvert à quel moment alors?
Le Carrosse d'or, je l'ai vu il y a très très longtemps. J'ai découvert dans les années 70.
Après avoir vu Elena.
J'ai vu après avoir vu Elena.
Et alors le théâtre là-dedans, vous l'avez retrouvé?
Oui, c'est un merveilleux hommage au théâtre, puis à une comédienne fabuleuse qui est Anna Magnani, mais c'est quand même avant tout encore le cinéma.
Alors j'aimerais c'est bien pour la disait quoi.
Bah, chez Renoir, ce qui m'étonne, c'est la rapidité, le mouvement, l'invention, la façon dont on pénètre petit à petit dans le drame ou dans la comédie, avec une intention, enfin dans le Carrosse d'or, c'est un film dont je sors toujours en chialant pratiquement, parce que c'est fabuleux. Je sais pas, c'est un des plus beaux hommages qu'on ait jamais pu faire au théâtre, c'est vrai, mais en même temps, c'est par le mouvement, par la rapidité. Enfin, chez Renoir, c'est constamment une invention, ça bouge, aussi bien au niveau des dialogues que du déplacement des personnages dans l'espace. Enfin, de ce point de vue, la règle du jeu, pour moi, c'est un des pas en avant dans la profondeur de champ, dans la façon dont les portes s'ouvrent, se ferment, les couloirs qu'on traverse. Et,
oui, mais alors, la règle du jeu, bon, alors, je vois à peu près se dessiner l'itinéraire, encore qu'on aille et qu'on va en arrière et on revient en avant. Mais l'itinéraire, c'est une passion pour le cinéma. Voir beaucoup de films en fonction du théâtre, découvrir le cinéma dit, entre parenthèses, plutôt que de dire le cinéma intellectuel, disons le cinéma du septième sceau ou le cinéma de l'Aventura ou de la Notée, découvrir Elena et les hommes et le bouleversement que ça provoque, et soudain, une autre envie d'un autre cinéma et de quelque chose, enfin d'un autre cinéma. Vous apprenez à découvrir comme le cinéma lui-même.
C'est oui, ça. Arriver au cœur du cinéma, je crois.
C'est ça, c'est-à-dire que vous avez le sentiment d'être allé plus loin dans une découverte de...
Oui, c'est-à-dire que c'est un parcours, de toute façon, c'est toujours un parcours qu'on met en cause, parce que d'abord, je crois que ce qu'on nous propose en général sur les écrans, c'est ce qui sort sur le moment, et que l'un des problèmes importants du cinéma, d'autant que c'est un art assez neuf, mais en même temps qu'il y a déjà un lourd passé derrière lui, c'est de se réapproprier ce qui s'est fait avant. Parce qu'aujourd'hui, quand on aborde le cinéma, il est à un certain stade de l'évolution, de son évolution. Beaucoup de jeunes arrivent, voient tout ce qu'on leur propose aujourd'hui, n'ont pas tellement de moyens de se réapproprier ce qu'il y a eu avant. Alors ce qu'il y a eu avant a été fondamentalement, je dirais presque, si le son n'était pas complémentaire, il n'est pas fondamental dans l'évolution du cinéma. Quand même déjà au moment du muet, pratiquement tout était déjà achevé au niveau de l'écriture cinématographique. Il y avait déjà le montage, il y avait déjà le cadrage, il y avait déjà bon, tout ça, les angles de prise de vue. Et l'apogée pour moi du cinéma des films comme Chantons sous la pluie, qui justifie en plus l'existence du parlant, qui en plus est un film de réflexion sur le passage du muet au parlant, puis qui fait un peu le bilan de où en est le cinéma au moment où Donen fait le film, parce que c'est quand même un film somme, un film synthèse de où en était le cinéma, c'est un film sur le cinéma. Donc déjà, à ce moment-là, le son, pour moi, c'est pas forcément... c'est complémentaire, mais c'était pas fondamental. Alors, l'évolution, elle s'est faite, c'est que j'ai commencé à voir tout ce que je voyais sur les écrans. Puis quand j'ai découvert la Cinémathèque... Je suis allée voir, bon, j'ai découvert des gens comme Strohan, Murnau, Dreyer, les grands muets, Griffith. Là, bon, j'étais subjuguée, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais face à quelque chose que je sentais déjà. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dépouillé, que ça va à l'essentiel, que ça garde l'essentiel, et que ce que je voyais avant, c'était soit noyer le poisson, en même temps que ça paraît, bon, les films de Lozay, quand on les revoit, ils paraissent extrêmement dépouillés. En fait, bon, j'ai revu Les Criminels hier, j'ai absolument pas supporté le film. Je trouve qu'il est maniériste, qu'il y a une inflation, un grossissement. Il y a une volonté
de l'effet,
de oui, qui me semble très artificiel. Et quand on voit un Dreyer, je veux pas comparer, ça me semble aberrant de comparer les deux, mais quand on voit... ou les grands muets, bon, ils vont directement à l'essentiel.
Bon, alors, directement à l'essentiel, oui, très bien. Mais alors, je vois très très bien, ce que vous décrivez m'intéresse d'autant plus que vous me décrivez ce qui nous est arrivé à tous, hein, Caroline et Pierre, non ? On est bien passé de ce qu'on nous proposait à la télé comme quotidien, pour votre génération, et on est bien passé un jour devant cet écran, et c'est pour ça que l'anglais reste le dragon qui veille sur nos trésors, parce que ce trésor, c'est finalement le trésor de notre vie. Alors, c'est la question que je voudrais vous poser. leur a l'offert, c'est est-ce que ce moment-là, ce moment, j'ai remarqué la façon dont vous avez dit Griffith, parce que Griffith, c'est vraiment le partage entre les cinéphiles et les non-cinéphiles. Il y a très peu de gens qui se déplacent pour aller voir Griffith. La salle est vide, non?
Oui, non.
Et il me semble alors que ce partage entre les cinéphiles et les non-cinéphiles, est-ce que ça passe ou pas par... Est-ce que Griffith, c'est partie de votre vie privée, de votre vie intime, de vos rêves?
C'est sûr. C'est ce qui m'a étonné, j'ai revu des Griffith récemment, j'ai redécouvert un aspect de Griffith, qui est l'aspect du monde complètement sadique, qui est mis en notamment par rapport aux héroïnes de Griffith. Je trouvais qu'il y avait des points communs entre le Marquis de Sade et Griffith. C'est étonnant, j'ai revu les deux orphelines, ou j'ai revu le Trouveur de Souzy, là, récemment.
C'est admirable.
C'est vraiment
c'est
étonnant.
C'est le bon rameau.
Ah, oui, c'est vraiment étonnant. Cela dit, je crois que la narration commence avec Griffith. C'est vrai que c'est là que ça s'organise, que tout d'un coup on rentre dans le drame. Parce qu'avec Méliès...
Ça serait le bac du cinéma.
Ouais, ça, non, avec Méliès et Lumière, moi je pense que déjà le cinéma existe. Mais c'est quand même...
Mais il n'est pas organisé, c'est vrai.
Il n'y a pas encore... Bon, le langage n'est pas encore trouvé, même s'il est déjà... Bon, chez Méliès, il y a pratiquement tout. Il a déjà inventé tous les genres, du burlesque au fantastique. D'ailleurs, quand on fait des hommages à Méliès, maintenant, on est arrivé à découper pratiquement tout ce qu'on retrouve de Méliès. Le Méliès burlesque, le Méliès... On pourrait faire aussi du Méliès dramatique, il en a fait. Le fantastique, bon, ça, c'est évident pour Méliès. Le merveilleux, etc. Bon, il a déjà inventé tous les genres. Mais il n'a pas encore inventé l'écriture, il n'a pas encore émancipé le film du fait que bon ça bouge pas quoi.
Et
pourtant il a quand même l'idée du mouvement puisqu'avec sa tête qui avance et qui recule, même s'il va bouger la caméra, il avait quand même conscience qu'il fallait un petit peu pénétrer dans...
Enfin l'homme a la tête en caoutchouc.
Oui, oui, oui.
Oui, ça c'est pour
la caméra. Hein.
Oui, la caméra bouge.
La caméra bouge,
il y a un travelling qui fait grossir la tête, oui.
C'est ça, donc
mais
déjà,
le décor, lui, ne bouge pas.
Le décor ne bouge pas, oui. Bon, déjà, il a quand même un sens du fait qu'il faut émanciper déjà le cinéma en bougeant. Il y a un sens du mouvement déjà, de pénétrer dans l'espace, de bouger. Chez Méliès.
Non, moi je voudrais qu'on approche, oui, bon, là vous faites de l'histoire du cinéma, vous parlez en termes, disons, quasiment théoriques de quelque chose qui est de l'ordre du contraire de la théorie.
Moi je trouve qu'elle en parle simplement.
Non, mais elle en parle très simplement, non, mais elle en parle très bien, c'est pas du tout.
J'essaye d'approcher
moi du moment devant lequel on s'est tous trouvés, finalement qui nous réunit et qui justifie d'une certaine façon cette émission et qui du moment où on se trouve dans une salle de Chaillot ou de Beaubourg, devant ce grand écran conçu par Langlois sans bord, où on voit, par exemple, la petite jeune femme avec le casque de l'intolérance qui mange ses oignons avec une telle intensité. Bon, je prends ce plan-là. Hein. Bon, je voudrais savoir ce qui se passe en nous à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que c'est très loin dans le temps? Est-ce que c'est parce que cette vivacité soudaine, cette intensité en noir et blanc...
Il y a une force, l'image, quand elle est autant dépouillée, c'est-à-dire quand on a d'un coup un gros plan, on a tout d'un coup, on est projeté devant quelque chose qui nous saisit complètement, qui nous envahit complètement. Ça, c'est un truc au théâtre qui n'est pas possible au théâtre, parce qu'au théâtre, on est toujours éloigné, on voit toujours la scène à la même distance, mais au cinéma, on est quand même complètement impliqué dans l'espace, aussi bien des personnages que dans l'espace de leur environnement. Et on est projeté à l'intérieur, et je crois que c'est en même temps, c'est très violent.
C'est ça, c'est
très, très violent, ouais. C'est un choc.
Ça peut vous poursuivre, enfin, puisque vous avez dit que dans votre enfance, c'est toujours qu'il y a toujours un Renoir vu par hasard dans l'enfance et que ce Renoir-là vous poursuive.
Ah oui, je l'ai vu très très jeune, Les Temps Tragiques. Ouais. Alors, en plus, ce qui est curieux, ce que je dis, c'est que j'en ai eu un souvenir pendant des années d'un film en couleur. Et quand je l'ai revu il y a 2-3 ans, bon, j'arrivais pas à croire que c'était en noir et blanc. Mais je me rappelais très 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 bien de l'atmosphère du film en plus, qui est étonnant.
J'ai la même chose pour La Nuit du Carrefour. La Nuit du Carrefour, qui est bon, évidemment, un film en noir et blanc, j'en ai une perception mentale en couleur. Et ça, c'est à quel point Renoir arrive à marquer ses émotions, parce qu'effectivement, notre monde est coloré, et on arrive à recolorer un film. Ouais. C'est extraordinaire. Moi, ce qui me fascine assez dans votre trajectoire, et ce que je comprends un peu de la mienne, c'est à quel point devenir cinéphile, décider un jour de devenir cinéphile, c'est une recherche d'intensité. C'est pénétrer petit à petit vers
Vous dites un gros plan parce que c'est la chose la plus dépouillée du cinéma. Vous dites Dreyer parce que c'est peut-être le plus grand metteur en scène. C'est avancer dans quelque chose qui est quand même de l'ordre d'une très très grande spiritualité. Alors, je voudrais que vous parliez de ça. Un vrai gros plan, ou Dreyer, c'est quand même de l'ordre d'une spiritualité...
Monsieur Dreyer, c'est énorme parce que c'est une aventure, c'est toujours une aventure spirituelle, Dreyer. Enfin, c'est personnages en plus. Ce qui est curieux, c'est que le film de Dreyer que j'aime le moins, c'est La Passion de Jeanne d'Arc. Et c'est pourtant celui peut-être dont les personnages sont complètement serrés dans le gros plan. Et les Dreyer que je préfère, c'est pas c'est Ordette, c'est Gertrude, et puis Dies Irae, et Vampire, que j'aime beaucoup. Mais
il y a La Passion de Dame Marguerite aussi,
oui,
qui était
super. Oui.
Et Le Maître du Logis,
oui,
et Le Président.
Oui.
Faut pas oublier les
mots. Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on dit toujours Jeanne d'Arc parce que c'est très dépouillé, les gros plans, etc. Or, par exemple, Gertrude, pour moi, ça reste un des films les plus essentiels.
Je crois qu'on dit ça parce qu'on est français et que c'est une façon d'aborder un mythe français. Ceci dit, Dreyer reste quand même un cinéaste de son origine.
Oui.
Et donc,
oui.
Il l'est plus dans Gertrude, oui. Il l'est plus dans Ordette. Oui. Et ça, le petit français, il a finalement...
Ce qui est étonnant, c'est une aventure spirituelle parce que je crois qu'effectivement, la façon surtout dont il éclaire ses personnages de l'intérieur. Il y a une espèce de foi qui suit complètement matérialiste. Je veux dire, c'est étonnant d'aimer un film comme Ordette.
Travaille avec l'opérateur qui est peut-être le plus...
Et quand j'ai vu Ordette, alors là, il y a une force de conviction de l'image en soi, et puis alors la façon dont les personnages de Dreyer sont portés par un souffle, et par ils sont illuminés de l'intérieur complètement, et voilà. de par ce qu'ils vivent du point de vue de ce qui leur arrive, mais la façon dont il éclaire ces personnages, c'est...
Oui, mais alors là, vous mettez le doigt sur une contradiction, qui a d'ailleurs été un peu la nôtre, avec son tempérament et ses données psychologiques, c'est que vous dites, je suis matérialiste, et Ordette est un de mes films. Alors, est-ce que c'est compatible? Parce que moi, on m'accusait, moi, en 54, à l'idée qu'on m'accusait d'aimer à la fois Buñuel et Dreyer. On me dit, tu peux pas aimer à la fois Buñuel et Dreyer. Mais pourquoi? Parce que l'un est surréaliste, matérialiste, de gauche, et l'autre est... Bon, alors, surtout dans les années 50, il y avait vraiment encore un enjeu... il y avait encore un enjeu politique de la religion qui est beaucoup moins sensible aujourd'hui. Alors, à l'époque, on me contraignait. Alors, moi, je disais, non, ils relèvent tous les deux du même cinéma que j'aime, donc du cinéma lui-même, d'une certaine façon. Est-ce que vous dites ça, vous? Est-ce que vous dites autre chose? Est-ce que vous dites, je suis une matérialiste qui aime Ordette?
C'est-à-dire que, de toute façon, même si le cinéma raconte une aventure spirituelle, les éléments matérialistes dans un film sont là à partir du moment où il y a une efficacité. C'est-à-dire que, par rapport à... Oui, mais c'est-à-dire que l'image, elle peut être inefficace par rapport aux propos qu'on veut tenir. Or, chez Dreyer, il arrive à faire croire à un miracle d'une manière tellement évidente qu'on ne peut absolument pas en douter, parce que l'image, c'est dans l'image qu'il y a la force de conviction. Alors, je pense que Dreyer, par ailleurs, est un matérialiste dans la manière dont il utilise l'image et dont il utilise les éléments qui vont faire un film. À partir du moment où on est efficace, on utilise les outils qu'on a à sa portée et on est profondément matérialiste, même si le propos du film, c'est pas ça.
On touche à la matière, on n'est pas matérialiste dans la façon dont on emploie.
Parce qu'on voit assez bien maintenant se dessiner la façon dont vous allez au cinéma. Vous continuez à y aller beaucoup?
Je continue à y aller beaucoup dans la possibilité de mon emploi du temps. D'autant que là, je vais essayer de faire une formation d'animatrice de ciné-club, ce qui fait que j'ai un retard énorme à rattraper. En ce qui concerne le cinéma beaucoup plus moderne, notamment, j'ai jamais vu de film de ce que je vous disais tout à l'heure de Wim Wenders, qui me semble un anachronisme, ou de l'école allemande. Il faut absolument que j'en voie beaucoup à une grande rapidité pour ressaisir tout le cinéma, tout un cinéma qui est sorti récemment, qui est apparemment considéré comme important.
Oui, mais alors, oui, apparemment considéré comme important, mais ce qui est drôle, c'est que, alors là, c'est important, parce que c'est une des questions que nous nous posons souvent ici, de quel film allons-nous parler, tout simplement. Alors, est-ce que nous allons parler d'un film récent, ou est-ce que nous allons parler d'une réédition, ou est-ce que nous allons parler de ce qui passe à la Cinémathèque? Or, nous nous apercevons beaucoup nous-mêmes que nous sommes beaucoup plus tentés par les films anciens, par les reprises, par l'envie de revoir un film ancien ou l'envie de regarder le film du cinéma de minuit, que par l'envie d'y aller voir, tout simplement parce que c'est la peur d'être échaudé. On est comme des... On a peur de s'ennuyer, on a peur de... Et il me semble que c'est votre cas.
Ce qu'il y a, c'est que je crois que le cinéma piétine. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a, il y a actuellement non seulement pas de forme, mais en plus pratiquement plus de sujets maintenant. Même s'il y a des sujets, il y a de moins en moins de... Il y a...
Vous avez vu Sauf qui peut la vie l'année dernière?
Oui, j'ai bien aimé d'ailleurs.
Vous avez vu La femme de l'aviateur?
Oui, j'ai beaucoup aimé.
Le cinéma continue d'exister, il faut quand même le dire.
C'est vrai, bien sûr qu'il continue d'exister. Maintenant, je ne sais pas si le film tel qu'il a été jusqu'à présent, si on connaîtra le même type de cinéma, parce que les moyens sont de plus en plus chers pour réaliser un film, qu'il y a une sélection qui se fait, je dirais, par le coût d'un film, et que aujourd'hui, je trouve qu'il y a une impasse. Maintenant, Romère ou Godard, c'est pas neuf.
Leur façon de travailler est neuve, non?
Oui.
Des gens qui avancent. Je veux dire, chaque film de Renoir était neuf par rapport au précédent. Oui. Je crois que vraiment chaque film de Renoir est neuf.
C'est nous qui changeons. C'est-à-dire, en fait, moi, je crois que le cinéma va son train. La faute n'est certainement pas attribuable au cinéma lui-même ou à nous, mais il y a certainement quelque chose en nous et dans les films qui change. Et c'est ça qui me semble être l'objet d'une véritable réflexion. À partir du moment où on cesse d'être passéiste et à partir du moment où on cesse d'être comme sont les gens, c'est-à-dire d'ignorer Griffith au profit de Wenders, ou le contraire. C'est-à-dire que la chose que nous devons faire, nous, c'est continuer à voir Wenders et Godard et Romère et Truffaut et Ackerman, mais sans oublier Griffith. Alors, c'est pour ça que Laura Lauffert, je vous remercie d'être venue au cinéma des cinéastes, parce que on voit bien comment un esprit de 31 ans aujourd'hui fonctionne par rapport au cinéma du passé, au cinéma du présent, et comment vous êtes allé très progressivement vers ce qui... comment vous avez redécouvert le cinéma en redécouvrant...
Je peux ajouter que j'aimais beaucoup aussi, il n'y a pas que les très grands, j'aime beaucoup des gens comme Fuller ou Corman, par exemple, ce qui peut paraître contradictoire.
Non,
on l'appelle la série B. Mais...
Non, pas du tout, alors Fuller n'est pas de cinéma.
Non, pas Fuller, mais je veux dire Corman, par exemple... Ça peut paraître étonnant de passer...
Non, pas du tout, puisque ça fait partie, au contraire,
d'une
tradition cinéphilique.
C'était le cinéma des cinéastes, une émission de Claude Jean-Philippe, assistant de réalisation Robert Duché. France Culture, quelques instants avec Fernando Sor.